Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez remarqué, en tout cas je l'espère, si c'est le cas c'est que vous suivez assidûment le podcast, je n'ai pas publié de second épisode la semaine dernière. C'est la première fois depuis qu'on a lancé le podcast Nouveau CEO que je n'ai pas été actif deux fois par semaine. La raison elle est toute simple, c'est que j'étais pleinement focus la semaine dernière sur le tournage de ma formation productivité qui arrive très vite. Et c'est juste un rappel pour vous dire que parfois, il y a des priorités, des ordres de priorité dans le développement de votre business. Et moi, en l'occurrence, la création d'une offre, ça passe bien avant la création de contenu, sachant que j'ai quand même publié un deuxième épisode. Mais en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine. Et avant de démarrer le sujet du jour qui est extrêmement intéressant, comment rester passionné après 7 ans sur Internet, j'aimerais faire une dernière parenthèse concernant les précommandes du livre. Sachez que les précommandes sont disponibles jusqu'au 24 avril, c'est-à-dire il vous reste moins d'une journée pour profiter des précommandes du bouquin et donc aussi recevoir les bonus qui y sont associés. Dès le 24 avril, donc dès demain, les bonus vont disparaître et vous ne pourrez plus en profiter. Je vous rappelle qu'il y a 4 bonus, 2 masterclass inédites, un condensé de mes meilleures sources d'informations et d'apprentissage et notamment une journée, donc un tirage au sort pour gagner une journée de coaching one-to-one avec moi. Je me déplace chez vous pour vous aider et vous former et faire exploser votre business en une journée, en tout cas essayer de casser certains blocages et vous donner mes meilleures stratégies en direct. Donc si vous n'avez toujours pas précommandé votre livre, il vous reste une journée pour le faire et tenter de remporter la journée de coaching et recevoir tous les autres bonus, parce que tous les bonus seront accessibles pour tout le monde, sauf évidemment la journée de coaching, il n'y aura qu'un gagnant ou une gagnante. Donc, parenthèse terminée, évidemment, tous les liens seront en dessous dans la description. Aujourd'hui, il y a un sujet qui m'intéresse, et un sujet qui est important, c'est la passion, et c'est notamment comment est-ce qu'on fait au fil des années pour perdurer sur Internet, et pourquoi est-ce qu'à mon sens, c'est un sujet qui est très important. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement lié finalement aux vrais facteurs de réussite. En fait, moi je l'ai vu parce que j'ai publié mon premier contenu sur Internet le 10 juin 2017. Donc ça va faire 7 ans. Cette année, on les fêtera ensemble, j'espère. Et avant ça, donc avant mon premier contenu, j'ai quand même consommé pendant presque une année du contenu d'autres entrepreneurs, etc. Donc on peut dire que factuellement, je suis un petit peu dans le domaine, dans le milieu depuis presque 8 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, j'ai vu énormément de choses changer. J'ai vu beaucoup de choses changer, j'ai vu beaucoup de tendances monter, descendre, j'ai vu beaucoup de personnes aussi se lancer, réussir, échouer, et j'ai pu voir passer des centaines, voire même des milliers d'entrepreneurs et apprendre énormément de choses. Et la plupart des gens pensent que ce qui est difficile sur Internet, c'est de réussir et de faire de l'argent à court terme. La plupart sont convaincus que ce qui est le plus compliqué dans le développement d'un business, dans le fait de gagner sa vie sur Internet, de gagner son indépendance, d'entreprendre, c'est les 3, les 6 premiers mois, la première année. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Ce qu'il y a de plus difficile sur Internet, c'est pas les 6 premiers mois, c'est pas les 90 premiers jours, c'est pas de faire 1000 euros les 90 premiers jours, 2000, 3000 euros. C'est pas de faire 10 000 euros la première année. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est d'être là dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Ce qui est plus compliqué, et vous n'avez qu'à regarder, si vous êtes là depuis des années, vous l'avez sans doute remarqué, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent sur le court terme, mais très peu sur le long terme. Et moi, je le sais parce que je suis l'un des entrepreneurs qui a réussi à tenir sur la durée, et on n'est pas beaucoup dans ce cas-là. Ça tient à pas grand-chose, en fait. Ça tient à deux éléments. Un qu'on va couvrir dans cette vidéo, et un autre qu'on couvrira dans un autre podcast. Donc celui qu'on couvrira dans cette vidéo, c'est quoi ? C'est la passion. Pourquoi ? Parce que réussir à tenir sur la durée, ça demande quoi ? Ça demande de créer constamment, ça demande d'être présent, ça demande d'apporter toujours plus à son audience, ça demande d'être innovant, d'être créatif, d'avoir de l'énergie. Et tout ça, c'est fortement lié à la passion, quelque chose qui ne vous passionne pas, malheureusement, vous aurez du mal à le tenir sur la durée. Et le deuxième élément qui est évidemment à toute son importance, c'est l'éthique. On en fera un épisode complet si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais évidemment que l'éthique a toute son importance dans le fait de développer un business sur le long terme. Quelqu'un d'éthique va réussir à faire beaucoup d'argent sur le court terme, mais n'en fera jamais sur le long terme et sur la durée. Et donc finalement, aujourd'hui, si vous voulez réussir à avoir un business qui se développe, non pas 6 mois, non pas 1 an, mais 2, 3, 4, 5 ans, voire 10 ans, l'un des facteurs qu'on va courir dans cet épisode, c'est la passion. quelles sont, moi, les stratégies que j'ai employées, les techniques et les façons de penser pour réussir au fil des années à constamment me réinventer, constamment être passionné, constamment être animé par ce que je fais au quotidien, alors que, mine de rien, ce qu'on fait, c'est souvent chronophage. Au début, ça paraît fun et ça paraît excitant parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose, qu'on fait ça, la première fois qu'on poste sur Instagram, la première fois qu'on fait une vidéo YouTube, la première fois qu'on fait un podcast, la première fois qu'on sort une formation. Forcément, c'est un truc qui est nouveau et qui est excitant, mais qu'on le fait des centaines de fois, voire des milliers de fois. Moi, c'est sans doute aujourd'hui ma 700e, 800e vidéo. Bah, comment est-ce qu'on fait au fil des années pour réussir à être excité à chaque fois, alors que ça fait des centaines de fois, une dizaine d'années quasiment qu'on le fait? Eh bien, c'est tout ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier conseil, qui n'est pas vraiment un conseil, mais qui est plutôt un constat pour démystifier un petit peu cette notion et cette idée de passion, c'est que s'ennuyer dans son business, c'est quelque chose de normal. Et j'aimerais un petit peu dédramatiser ça. Je le disais précédemment, quand vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, il y aura une sorte de courbe extrêmement exponentielle de kiff. C'est-à-dire qu'au début, la nouveauté va faire que vous allez être extrêmement excité par le sujet. Si vous vous lancez sur YouTube au début, bah le fait de découvrir le logiciel de montage, le fait de découvrir comment est-ce qu'on utilise une caméra, le fait de découvrir comment est-ce qu'on fait une miniature, toute cette nouveauté-là sécrète de la dopamine, de l'excitation et fait que bah, finalement, c'est un vrai kiff. Par contre, après des semaines, des mois, et au-delà de la temporalité, après une certaine quantité de production, parce que si en 6 mois vous faites 2 vidéos, l'excitation est toujours là, par contre si vous en faites 200, eh bien en fait, on se rend compte que cette courbe, elle redescend extrêmement vite, elle s'essouffle extrêmement vite. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de courbe de nouveauté. En fait, quand vous vous lancez dans un nouveau projet, une nouvelle thématique, quelque chose de nouveau, vous êtes excité au début, et puis après, ça devient une certaine norme, vous vous adaptez. Ce qui vous paraissait excitant, nouveau au début, vous appreniez plein de choses, bah vous paraît aujourd'hui comme étant quelque chose de normal, et plus vous allez le répéter, plus cette normalité va vous ennuyer. Et là-dessus, j'aimerais vous rassurer, c'est un truc normal. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qu'on vit tous parce que l'être humain est fait pour évoluer constamment. Je vous prends mon exemple avec le montage vidéo. Aujourd'hui, le montage vidéo, je le délègue. Et je le délègue d'ailleurs depuis des années, hein, ça fait quasiment 5 ans maintenant que je le délègue. Non pas parce que le montage, c'est pas quelque chose que je maîtrise pas. Je sais monter une vidéo, je sais très bien monter une vidéo. Je sais aller chercher les bonnes musiques au bon endroit, mettre les bons effets, faire des cuts qui sont travaillés, ajouter du dynamisme. Mais je le délègue pas par rapport aux compétences, je délègue par rapport à l'ennui. Le truc, c'est que j'ai monté dans ma vie des centaines de vidéos. Et c'est sans exagérer, je dois être à 300-400 vidéos YouTube montées, je pense. Et on a cette courbe-là, c'est-à-dire qu'au début, ça m'excitait, c'était génial, c'était fun. Et au bout d'un moment, à force de le répéter, ce qui était fun devient chronophage. Et bah, finalement, quand ça commence à être chronophage, j'ai pas envie de perdre un petit peu la flamme de YouTube, la flamme de la création. Donc je vais commencer, évidemment, on va en reparler dans les prochains points, mais j'ai commencé à déléguer ce concept-là. Donc le premier truc, c'est que vraiment, j'aimerais démystifier un petit peu ça, dédramatiser le sujet en vous disant si dans votre business, vous commencez sur certains sujets, la création de contenu, le fait de poster, le fait de faire du montage, des miniatures, lancer des produits, genre de trucs. Vous commencez parfois bah, finalement à perdre un petit peu la flamme. Faut pas vous en vouloir, faut pas vous dire que bah, vous êtes bizarre, ok, vous allez pas réussir parce que les entrepreneurs ont dit que pour réussir, fallait être passionné par son sujet, machin, etc. Non, ça a rien à voir, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être passionné par votre sujet et pour autant, dans votre business, il y a des trucs, voilà, ça vous saoule un petit peu. Pourquoi ? Parce que au début, c'était excitant, le fait de le répéter des centaines de fois, ça devient une norme. Et forcément, vu qu'on évolue plus dans ce secteur-là, bah, notre norme nous ennuie et on a envie de passer à autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et mon deuxième conseil, qui va devenir en fait le premier conseil vraiment pratique, ça va être d'éliminer les trucs chiants de votre business. En fait, dans un business, dans votre activité, on peut scinder la majorité des tâches en 2 catégories. Ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas. Et ça, ça se fait à un instant T. C'est ce qu'on disait précédemment avec cette fameuse courbe du kiff, on va appeler ça comme ça. En fait, ce que moi j'aimais au début dans mon business sont des trucs que je n'aime plus aujourd'hui. Le montage, la première fois que j'ai monté une vidéo, c'était incroyable. Je découvrais un nouveau truc, j'allais chercher des musiques, c'était passionnant. Et puis bon, je l'ai fait des centaines de fois. Et puis au bout d'un moment, j'aimais plus trop ça, ça me passionnait plus, ça me faisait plus kiffer. Il y a d'autres choses qui me faisaient kiffer. Parce que, pareil, ça va être un point juste après, parce qu'en fait, j'ai décalé cette courbe, non plus au montage, mais à un autre truc que j'avais jamais fait. Courbe de nouveauté, au début, c'est le kiff et je suis pleinement investi là-dedans. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir, c'est vous dire, ok, je vais scinder finalement toutes les tâches de mon business en deux catégories, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et l'objectif global pour avoir un business qui nous passionne sur la durée, bah, ça va être de faire de plus en plus de choses qu'on kiffe et de moins en moins, de choses qu'on ne kiffe pas. Non seulement parce qu'il y a une notion de productivité, une notion d'efficacité, d'efficience, vous êtes souvent beaucoup plus productif, à même à travailler, et vous avez souvent beaucoup plus de résultats dans les choses que vous aimez faire que dans les choses que vous n'aimez pas faire. Et en plus de ça, vous aurez un business qui va, bah, sur la durée, toujours vous plaire. Il y aura toujours cette flamme, toujours cette passion, parce que si au fil des années, vous éliminez perpétuellement les choses que vous n'aimez pas faire dans votre business, et on va en parler évidemment juste après, comment est-ce qu'on fait. Donc vous les éliminez perpétuellement, bah, vous vous retrouvez constamment, même après 2, 3, 4, 5, 10 ans, à faire quasiment que des choses que vous kiffez. Donc comment est-ce qu'on fait pour répartir un petit peu cette balance, pour organiser ça ? On prend nos tâches, on les divise en deux catégories. Et la catégorie « je n'aime pas trop, j'aime moyennement », la première chose à faire, c'est de voir si on peut la supprimer. Pourquoi ? Bah parce que si c'est une tâche qui apporte rien à notre business, qu'on fait quand même parce qu'on s'est dit que c'était important, genre de truc, mais que vraiment, en termes de résultats, c'est pas vraiment là, bah on la supprime. Pourquoi se prendre la tête à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire et en plus de ça, qui n'apporte pas de résultats ? Si on ne peut pas la supprimer, deuxième chose, on essaye de la déléguer. C'est-à-dire qu'on essaye, bah ok, on peut pas la supprimer parce que c'est un truc qui est important. C'est quelque chose, bah je sais pas, gérer le SAV, moi c'est un truc qui me fait pas kiffer, donc est-ce que je peux le déléguer à quelqu'un ? Oui, je peux déléguer, ok, je vais essayer de le déléguer. Parce qu'encore une fois, vous allez vous soustraire de cette tâche qui vous plaît pas, la donner à une autre personne, et j'aimerais insister là-dessus parce que souvent on voit la délégation comme un truc péjoratif, en disant, non mais attends, moi je vais refourguer mon travail que je n'aime pas à quelqu'un qui va le faire. Mais attends, c'est pas normal, c'est pas humain de donner un truc qu'on n'aime pas à une autre personne. Mais encore une fois, c'est interpersonnel par rapport à notre cours du kiff. Moi, ce que j'aime pas faire aujourd'hui, eh ben quelqu'un d'autre adore le faire. Je prends l'exemple avec ma monteuse Maxime, elle adore le montage vidéo. C'est sa passion, elle pourrait d'ailleurs le faire, elle passe des dizaines d'heures chaque semaine à monter des vidéos. Donc faut aussi sortir de ce paradigme. Maintenant, déléguer, c'est pas toujours simple. Ça dépend des tâches, ça dépend du budget qu'on a. Donc dernière chose, est-ce que je peux la simplifier ? Est-ce que je peux réussir à créer un process, essayer d'automatiser la tâche, essayer de faire en sorte que cette tâche ne me demande pas, je ne sais pas moi, une heure, mais seulement 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, si possible. Et comme ça, en faisant ça, on élimine, on essaye de simplifier et de réduire finalement les efforts qu'on met dans quelque chose qu'on aime moins. Et on investit le temps qu'on a gagné dans quelque chose qu'on aime plus. Deuxième point, ça va être de bosser pour un processus et non pas une destination. Et ça, c'est à mon sens l'un des plus grands fléaux des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'en fait, on se concentre uniquement sur le résultat. On se dit, ok, je vais faire un lancement, il faut que ce lancement il fasse X milliers d'euros. Je vais faire une vidéo, il faut que cette vidéo elle fasse X vues, X milliers de vues, ce que vous voulez. Le souci, c'est quoi ? C'est que l'objectif final, le résultat final, c'est un élément qui est hors de notre zone de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler le chiffre d'affaires qu'on sort, qu'on gagne, on ne peut pas contrôler le nombre de vues qu'on fait avec une vidéo, ni le nombre d'abonnés qu'on gagne. Et le souci, quand on essaye de maîtriser et de se concentrer sur un truc qu'on ne maîtrise pas, bah c'est qu'on crée de la frustration. Si vous dites demain, moi, je veux gagner avec cette formation, ce lancement, ce produit, ce projet, 10 000 euros le mois prochain, et que ça n'arrive pas, vous mettez tous vos efforts et toutes vos pensées sur le résultat final, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un décalage entre la réalité et vos espérances, ça va créer de la frustration. Et ça, c'est l'inverse du kiff, c'est l'inverse du fait de développer un business qui nous passionne vraiment. Alors qu'il y a un autre élément qu'on peut contrôler, et vous allez voir qui est intéressant, l'autre élément, c'est quoi ? C'est le processus. Et il y a une nette différence entre les deux. Le processus, c'est quelles sont toutes les étapes que je peux maîtriser qui vont me permettre d'obtenir ou d'aller vers ce résultat final. Par exemple, je prends l'exemple d'une vidéo YouTube. L'élément que je ne peux pas contrôler, qui est le résultat final, c'est le nombre de vues. 20 000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues. Le processus que je peux contrôler, c'est la création de la vidéo. À quel point je scripte bien, à quel point je tourne bien, à quel point je monte bien, à quel point ma miniature est bien, à quel point le SEO est bien, à quel point la partie promotion de la vidéo YouTube est bien, etc. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous vous concentrez uniquement sur le résultat final, que vous essayez d'optimiser encore une fois les 20 000 vues, les 10 000 vues, etc. Que vous allez sacrifier votre vie pour ça, parce que finalement, tous les efforts qu'on va mettre pour atteindre ce résultat, bah en fait, sont des efforts, Enfin, je veux dire, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça nous coûte parfois de l'argent. Encore une fois, pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça va créer de la frustration et on va perdre le plaisir. Parce qu'on ne peut pas gérer le résultat final. Alors que si on se concentre et on fait en sorte de kiffer, de prendre du plaisir tout au long du processus, à quel point est-ce que je peux kiffer, à quel point je peux prendre du plaisir sur mon script, sur mon tournage, sur mon montage, sur ma miniature, sur mon titre, sur la promotion, sur tous ces éléments-là, à quel point je peux faire en sorte de prendre plaisir sur chacune des parties, eh bien, le résultat final, finalement, bah, on s'en fout un peu. Parce que ce qui compte, c'est de prendre plaisir tout au long du processus. Et souvent, vous verrez, moi, c'est un truc que j'ai pu tester des dizaines de fois, plus on prend plaisir durant le processus, plus on se concentre sur le processus, plus l'outcome, plus les résultats sont présents. Alors qu'à chaque fois qu'on essaie de se concentrer sur les résultats en mettant de côté le processus, eh bien souvent, c'est l'inverse qui se passe. Donc le troisième conseil, ça va vraiment être de vous dire comment est-ce que je peux non plus me concentrer sur le résultat final, faire en sorte de l'optimiser alors que c'est un truc que je contrôle pas, mais comment je peux faire pour me concentrer sur le processus, sur le chemin qui m'emmène à cette destination et faire en sorte de kiffer tout au long du chemin. Et en fait, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe à la fin. Alors évidemment, si on parle de revenus, il faut suffisamment de revenus pour gagner sa vie, manger, tout ce que vous voulez. Mais en fait, entre 8000 et 12000, on s'en fout de la différence entre les deux. Parce qu'à partir du moment où 8000, c'est assez pour vous, ce qui compte, c'est de prendre plaisir tout au long du processus. Et en plus de ça, étant donné que le business, c'est quelque chose d'éternel, c'est-à-dire qu'on passe notre vie constamment à définir l'objectif suivant, le process suivant, l'étape suivante, ce qui se passe si vous ne prenez jamais plaisir durant le processus, c'est qu'en fait, je sais pas moi, il n'y a que une dizaine, une quinzaine de jours dans l'année où vous prenez vraiment plaisir, c'est le jour où le résultat tombe. Et encore une fois, si une fois sur deux, le résultat n'est pas au rendez-vous, vous allez être frustré. Donc il y a une dizaine de jours dans l'année où vous êtes vraiment dans le plaisir. Alors que si vous inversez la tendance en vous disant « Ok, je m'en fous du résultat, moi ce qui compte c'est de prendre plaisir sur le chemin », en fait, vu que 90% de votre année, vous la passez finalement dans le chemin, c'est là où vous allez être beaucoup plus heureux, plus épanoui dans votre business. Le quatrième point, qui vous le verrez, va avec un petit peu le point suivant, ça va être de faire évoluer votre business. D'ailleurs, je vais les mettre les deux ensemble, ce sera plus simple. Donc faire évoluer votre business. Alors quand je dis évoluer votre business, encore une fois, on reste toujours, faut vraiment avoir en tête cette notion et cette fameuse courbe du kiff où en fait la nouveauté amène finalement du plaisir et le fait de rester dans une zone de contrôle et de confort fait que au bout d'un moment, on fane un petit peu, notre business nous fane un petit peu. Quand je parle de faire évoluer son business, ça prend en compte différentes choses. Ça prend en compte le contenu, ça prend en compte les offres, ça prend en compte les problématiques, ça prend en compte la thématique et les clients. Alors, je m'explique. En fait, ce qui peut se passer, et moi, c'est un truc que j'ai vécu, que je vis encore un peu aujourd'hui, ce qui peut se passer quand on se lance dans le business, encore une fois, facteur de nouveauté, on se dit « Ok, moi, je veux prendre mon cas. » Je me suis lancé dans le business et puis au début, je faisais beaucoup de contenu sur Instagram. Je faisais beaucoup de contenu, aujourd'hui aussi, évidemment, mais quand même un peu moins. Et en fait, je faisais beaucoup de contenu sur le sujet parce que, toujours pareil, c'était nouveau. C'était un truc nouveau. Je m'y intéressais, les gens s'y intéressaient, donc on avait quelque chose d'assez passionnant, parce que finalement, c'était un sujet qui était nouveau. J'avais l'impression à chaque fois d'apprendre de nouvelles choses, de me former sur le sujet, etc. Et en fait, arrivé à un certain stade, au bout de 2-3 ans, quand vous passez 2-3 ans à parler du même sujet, à traiter, et en fait, au-delà de la thématique, c'est aussi l'angle, c'est-à-dire traiter la même thématique au même niveau, avec le même niveau d'audience, qu'est-ce qui se passe? On commence à perdre de la passion. Et je vous prends l'exemple avec Instagram, vous allez vite comprendre. Quand vous faites 50, 60, 80, 100 vidéos sur Instagram et que toutes ces vidéos sont destinées à des débutants qui se lancent et qu'à chaque fois le sujet est toujours le même, comment faire pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, en fait, vous allez kiffer vos 20, 30, 40, 50 premières vidéos. Et puis au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes choses, c'est des choses que vous maîtrisez déjà depuis des années. C'est des choses aussi que la majorité des personnes qui vous suivent maîtrisent parce qu'elles ont déjà regardé les 50 premières vidéos chez vous. Ce qui se passe, c'est qu'on perd de l'essence, on perd de la passion parce que c'est normal. Courbe du kiff, au bout d'un moment, on a traité 200 fois les mêmes sujets, ça nous passionne beaucoup moins. Et au-delà de ça, si on parle vraiment d'un point de vue résultat, business, c'est aussi au détriment de votre audience parce que si les gens qui vous suivent ont consommé les 50 premières vidéos, normalement, ces personnes ont évolué. C'est-à-dire que maintenant, Super Tony, tu nous as parlé de ça, j'aimerais monter d'un niveau. J'aimerais que tu nous parles, ok, du niveau d'après. C'est quoi le niveau du dessus? C'est quoi le boss du dessus, en fait? Bah, maintenant qu'on a des abonnés sur Instagram, on va essayer d'en faire un business. Et donc, bah, comment on crée une offre, comment on lance une offre, comment on gagne de l'argent, comment on fait toutes ces choses. Et encore une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on essaie de monter d'un niveau. Et donc, toute l'idée, à mon sens en tout cas, pour être passionné au fil des années, et ça, bah, va falloir le croiser aussi avec le positionnement que vous voulez avoir, évidemment, mais ça va être d'évoluer avec son business, d'évoluer avec ses contenus, avec sa thématique, avec ses offres, évoluer aussi avec son audience. C'est-à-dire que la meilleure façon d'être passionné et de toujours être dans cette courbe du kiff, c'est de créer du contenu, évidemment, pour les personnes qui se lancent dans votre domaine, si c'est encore une fois votre positionnement. Et puis, bah, une fois que vous avez créé suffisamment de contenu sur le sujet, commencez à monter d'un niveau. C'est-à-dire que, ok, j'ai parlé des abonnés, maintenant, je monte d'un niveau, bah, je vais parler un peu plus de business, de stratégie, comment on trouve des clients, comment on convertit ses clients, etc. Et puis après, je monte d'un niveau. Donc, monter d'un niveau, alors je vais peut-être sortir d'Instagram, je vais commencer à parler d'une autre thématique. Ok, Instagram, c'était marrant, bah, maintenant, je vais parler de formation en ligne. Et puis maintenant, je vais parler de productivité. Et puis, qui sait, peut-être que Tony, dans un an, deux ans, trois ans, il va se mettre à parler d'investissement, il va peut-être se mettre à parler de fiscalité, ce genre de trucs, parce que bah, ce sont des sujets qui me passionnent aujourd'hui et peut-être que dans 2-3 ans, mon audience aura évolué et sera à ce niveau-là. Alors, évidemment, il y a toujours une partie de positionnement, toujours une partie d'objectif qui fait que moi, aujourd'hui, je garde quand même une partie de mes contenus qui s'adressent à des débutants pour faire de la nouvelle acquisition et faire rentrer des nouvelles personnes dans le système, mais une partie, une grande majorité en tout cas de mes contenus sont des contenus qui s'adressent à mon audience actuelle, des personnes qui ont déjà consommé une majorité de mes contenus, de mes vidéos, aussi de mes formations et qui sont plus avancées. Et donc ça fonctionne pour les contenus, ça fonctionne pour les offres. Bah, pareil, si ça fait 8 ans que j'ai toujours la même offre, qui s'adresse toujours à la même audience et toujours au même niveau, au bout d'un moment, cette offre-là, bah, elle va plus forcément me passionner. Donc il faut que je crée une nouvelle offre qui monte d'un cran, d'un niveau dans ma thématique ou une nouvelle offre sur une thématique qui est connexe, qui est annexe ou qui n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au fil des années à rester passionné par votre sujet et qui, en plus de ça, a beaucoup d'autres bénéfices parce que vous attirez une nouvelle audience avec des contenus qui s'adressent à des débutants. Mais en plus de ça, le fait de faire des contenus qui sont plus avancés, bah, ça vous permet de donner encore plus de contenu aux gens qui vous suivent déjà depuis des années. Et le fait de créer des nouvelles offres, ça vous permet de générer plus de chiffre d'affaires aussi avec les personnes qui vous suivent depuis des années et ainsi de suite. L'élément suivant, et c'est un élément que je trouve assez intéressant, ça va être de changer ses KPI. En fait, souvent, et c'est le réflexe premier, un réflexe, je vous assure, hein, qui est tout à fait normal, le réflexe premier des entrepreneurs, quand il s'agit de suivre ses KPI, donc c'est Key Performance Indicator, donc c'est les indicateurs clés de performance, donc en gros, notre taux de conversion, est-ce qu'on a un bon taux de clic sur nos vidéos, un bon taux d'ouverture, combien de ventes on a fait ce mois-ci, bref, toutes ces datas-là. C'est normal de traquer ça parce que c'est un truc qui est important et c'est ce qui va représenter finalement la santé même de votre business. Si vous avez un taux de conversion qui est ridicule, que vous avez un panier moyen qui est faible, que vous avez un taux d'ouverture, un taux de clic qui est désastreux, bah, on peut juger que votre business n'est pas en bonne santé. Maintenant, comme on le disait précédemment, le business qui est en bonne santé, c'est une chose, mais l'important, c'est vous. C'est à quel point vous êtes en bonne santé, à quel point vous êtes passionné par votre business pour pouvoir perdurer dans le temps. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est non pas de remplacer vos KPI business hyper importantes par d'autres qui sont un peu plus objectives, subjectives, qui sont un peu plus personnelles, on va dire ça comme ça, mais c'est de venir intégrer des KPI supplémentaires. C'est-à-dire, ok, bah, j'ai mon taux de conversion, j'ai mes taux d'ouverture, j'ai mes taux de clic, j'ai mon CA moyen par mois, mon panier moyen, mon nombre de clients, mon nombre de leads, paf, 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 j'ai tout ça tous les mois. Et je viens intégrer des KPI supplémentaires. Ça peut être des KPI globales, ça peut être des KPI par chaîne, c'est-à-dire bah, YouTube, je connais mon taux de clic, mon taux d'impression, mon taux de rétention sur mes vidéos, mais je viens rajouter encore une fois des KPI et des KPI qui sont plus plaisir. Donc des KPI plaisir, c'est quoi ? Bah, c'est à quel point j'ai kiffé faire ça, à quel point ça m'a passionné, à quel point c'était quelque chose de génial, à quel point j'avais envie de le faire, j'étais motivé, je pensais qu'à ça tout le temps. Et ça, c'est des datas qui sont hyper importantes en termes de passion. Moi, il y a pas mal de formations que j'ai sorties. Quand je dis pas mal, c'est pas non plus une trentaine, mais deux, trois à peu près, cinq formations, on va dire, une demi-douzaine de formations que j'ai sorties qui n'étaient, je le savais, pas des best-sellers en termes de vente, mais qui étaient des formations plaisir. C'est-à-dire, je savais que c'était des formations qui n'allaient pas performer, qui n'allaient pas être le top vente de mes formations, de par la niche du produit, ce genre de truc. Mais par contre, je savais deux choses. De un, que c'était des formations qui allaient changer radicalement le business des personnes qui allaient les acheter, de par le côté très niché. Et de deux, c'était des formations qui allaient me faire kiffer en termes de création. Je savais pertinemment que j'allais prendre plaisir sur ces programmes. Je savais pertinemment, étant donné que c'est un truc niche, nouveau, avec plein de trucs comme ça, d'automatisation, ce genre de trucs, que j'allais vraiment prendre mon pied en créant ces formations. Et ça, c'est des indicateurs que je suis venu rajouter. Parce que, encore une fois, c'est ce qui me permet de perdurer sur le long terme. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que plaisir et business ne sont pas incompatibles. En fait, on met souvent en opposition le plaisir et l'argent en se disant qu'il faut forcément faire des choses qui sont hyper chiantes, etc., pour gagner de l'argent, et que si on prend plaisir, on ne gagnera pas beaucoup d'argent, mais pas forcément. Les bonnes datas sont aussi compatibles avec des datas qui sont plaisantes. Je vous prends mes dernières vidéos YouTube que j'ai sorties. C'est des vidéos YouTube qui marchent plutôt bien. Et pourtant, c'est des vidéos YouTube qui me font kiffer. Le fameux schéma, je prends mon crayon, je fais des petits visuels, genre de trucs, ça me fait kiffer. Parce que je peux rentrer en profondeur. Il n'y a pas trop de montage, il n'y a pas trop de préparation. J'ai l'impression de faire une sorte de coaching en direct. Et je prends beaucoup de plaisir à préparer ces contenus-là et à les faire. Pourtant, c'est des vidéos qui marchent assez bien. Et pareil, encore une fois, avec mes formations, je vous le disais précédemment, l'une des formations qui a le mieux marché en 2023... c'est Funnel Academy et c'est une des formations où j'ai pris le plus plaisir parce que de mon côté, en tout cas à titre perso, tout ce qui est automatisation, trucs où on fait des schémas, machin, ça je kiffe. Et j'ai réussi à allier les deux et je pense qu'il faut rajouter ces KPI dans son business. Et le dernier point qui va englober un petit peu toutes ces choses, c'est finalement de lancer de nouveaux projets. Il n'y a rien de mieux en fait pour réussir à maintenir une courbe de kiff, une courbe du kiff dans son business que de lancer de nouveaux projets. Alors, nouveaux projets, ça peut être un bien grand nom. Vous allez le voir, je vais vous donner trois types de projets à lancer. Mais donc les projets que je vais vous donner après, c'est vraiment ce que j'entends par projet, c'est-à-dire que c'est des gros trucs. Mais il n'y a pas que les projets. Ça peut être aussi des nouveaux formats, ça peut être aussi des nouveaux types de contenus, ce genre de trucs. En fait, de créer de la nouveauté. Parce que plus vous allez créer de la nouveauté, plus vous allez maintenir une courbe du kiff qui va être élevée. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous testez une nouveauté, c'est la première fois que vous le faites, vous kiffez. Vous pouvez faire ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La courbe du kiff, je vous rassure, elle s'écroule pas au bout de 3 jours. Et en fait, dès qu'un format vous saoule, eh bien, vous essayez de tester un nouveau truc. Moi, par exemple, en ce moment, j'adore faire les micro-trottoirs. C'est un kiff, j'aime trop. Je sais qu'au bout d'un moment, ça va me saouler. Le jour où ça me saoule, je teste un nouveau format, j'essaye un nouveau truc. Donc, toute la partie nouveau contenu, nouvelle langue, nouveau format, etc., ça, vous pouvez le faire. Maintenant, vous pouvez, en plus de ça, évidemment, lancer des nouveaux projets. Donc, un projet, c'est quoi ? Un projet, il y en a 3 types que je vais disséquer après, mais en gros, c'est par exemple écrire un livre, c'est un projet. Ça peut être lancer une marque, c'est un projet. Lancer un planeur, c'est un projet. Créer un SaaS, c'est un projet. Acheter une maison, machin. Donc, en fait, il faut comprendre que les projets, ça peut être dans plein de thématiques différentes, dans plein de domaines différents. Ça peut être des projets financiers ou non. Ça peut être des projets plus ou moins gros. Le premier type de projet qui est, à mon sens, l'un des plus intéressants, c'est ce que j'appelle la méthode de la pieuvre. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça et beaucoup d'entreprises qui font ça, qui créent des pieuvres. Il faut voir l'image de la pieuvre avec plein de tentacules, d'accord ? Chaque tentacule est un projet qui va être lié à la tête de la pieuvre. Et la tête de la pieuvre, c'est quoi ? C'est vous. C'est vous, notamment, c'est vos thématiques. Et il faut comprendre dans cette idée-là de pieuvre géante que chaque tentacule va servir la tentacule d'à côté et les 7 autres, enfin la totalité des tentacules. Je vais vous donner un exemple, pour que ce soit plus parlant. Admettons que moi aujourd'hui, voilà, je vends des formations en ligne, je parle de création de contenu, je parle beaucoup d'Instagram. L'une des tentacules à laquelle j'ai pensé pendant très longtemps, mais que j'ai fini par mettre de côté parce que manque de temps et puis trop gros projet pour moi, c'est de créer un SaaS sur Instagram. En fait, pendant très longtemps, j'y ai pensé, de créer un outil qui allait permettre d'avoir un calendrier de contenu, de planifier ses posts Instagram, de gérer aussi sa communication sur Instagram, donc ses DM, ses commentaires, etc., tout au même endroit. Parce qu'aujourd'hui, je ne trouve pas un outil qui vraiment correspond à ce que je cherche. Et je m'étais longtemps posé la question de créer un SaaS sur le sujet. Et ça, par exemple, c'est une tentacule géniale. Parce que mon business actuel attire beaucoup de personnes qui sont intéressées par le fait de créer une audience sur Instagram. Et c'est des personnes qui pourraient être clients ou clientes de mon SaaS. Même principe, si demain, par exemple, j'ai envie de sortir un livre, donc c'est évidemment ce que j'ai fait, méthode de la pieuvre, mais j'aurais pu sortir un livre sur le sujet d'Instagram Et encore une fois, effet boule de neige, les gens qui sont dans la première tentacule sont intéressés par la deuxième. Et inversement, c'est-à-dire que les clients de mon SaaS pourraient être aussi clients ou clientes de mes formations. Donc la méthode de la pieuvre, c'est hyper intéressant de vous dire, ok, moi par rapport à mon business actuel, c'est quoi les projets qui me tentent, que je pourrais lancer, évidemment évaluer en fonction du temps que vous avez à dispo, etc. C'est quoi les projets que je pourrais lancer qui en fait serviront le projet que j'ai aujourd'hui. Et forcément, c'est des projets qui sont extrêmement rentables et c'est les plus intéressants parce que vous pouvez profiter de cet effet levier-là, d'avoir déjà bâti une audience qui est intéressée par un sujet. Le meilleur exemple, la meilleure personne, le meilleur exemple de pieuvre aujourd'hui, c'est Thibaut InShape. C'est un mec qui a commencé à faire des vidéos YouTube sur le sport, sur la musculation. Il a commencé ensuite à sortir des vêtements, une marque de vêtements de sport. Ensuite, il a ouvert sa salle de sport. Ensuite, il a créé sa marque de protéines et de compléments alimentaires autour du sport, etc., etc. Des programmes. Et en fait, on se retrouve finalement à suivre Thibaut, à l'époque en tout cas, sur ses vidéos YouTube, être passionné de sport. Puis après, on achète chez lui des t-shirts et des vêtements. Et après, on prend des compléments alimentaires chez lui. Et s'il avait ouvert une chaîne, par exemple, de sport, eh ben, on se serait sans doute inscrit dans cette chaîne de sport, etc. Ce qui fait que vous augmentez le panier moyen par client total dans votre groupe. Vous l'augmentez grandement parce que chaque personne peut être client ou cliente de, finalement, différents business. La deuxième méthode, c'est les projets passion. Les projets passion, c'est des projets qui peuvent être monétaires, mais qui ont en général beaucoup plus tendance à ne pas l'être. Par exemple, l'écriture d'un livre, c'est évidemment, ça entre dans la méthode de la pieuvre parce que ça sert aussi, mais à mon sens, je le tourne aussi comme un projet passion parce que je ne sais pas si vous êtes renseigné, mais l'écriture d'un livre, on ne gagne pas beaucoup d'argent, surtout quand on passe par une maison d'édition. En tout cas, par rapport moi, à mon business actuel, je ne fais pas ça pour l'argent du tout. Je le fais parce que vraiment, j'avais envie de le faire. Et donc, en fait, ça, encore une fois, a amené, surtout sur mon année 2023, beaucoup d'excitation et de nouveautés parce que c'était un truc qui allait servir mon business. Et en plus de ça, c'est un truc qui était nouveau, un projet passion, j'allais prendre plaisir à le faire. Maintenant, vous pouvez lancer des projets passion dans d'autres choses, évidemment. Je ne sais pas, par exemple... Vous avez toujours rêvé d'être prof de sport, prof de yoga, cours de yoga ou d'être diplômé de yoga sans pour autant vouloir donner des cours ou vouloir en faire un business. On n'est pas obligé d'avoir toujours un truc financier. Eh bien, encore une fois, c'est pareil, ça peut être intéressant dans votre thématique de passer ce genre de diplôme, ce genre de cours, non pas forcément pour en faire un business, mais juste vous, pour votre expérience personnelle ou vous former sur des trucs qui sont importants. Donc, les projets passion ont beaucoup plus tendance à servir le cœur qu'à servir le porte-monnaie, même si parfois on peut faire les deux. Et le dernier exemple, c'est les projets annexes. Les projets annexes, c'est quoi ? Donc, c'est souvent des projets qui sont financiers, mais qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la méthode de la pieuvre. C'est-à-dire, donc moi, par exemple, l'année dernière, on a fait une fois l'acquisition l'année dernière d'un bien immobilier. Cette année, on a refait l'acquisition d'un lot immobilier de 3 appartements. Et en fait, ça, par exemple, c'est un projet annexe. C'est un projet qui va me permettre finalement de m'épanouir et d'avoir une nouveauté dans quelque chose, donc de garder une certaine passion qui n'est pas forcément dans mon business, mais qui est dans quelque chose pour le coup de financier qui va servir mon objectif global et futur, d'être indépendant et d'avoir une certaine liberté financière, liberté géographique, indépendance financière. Donc ça, c'est un projet, c'est un objectif. Vous pouvez aussi, acheter une petite maison, essayer de la retaper, en faire une grange, louer ça sur Airbnb... créer une tiny house, ce que vous voulez, mais évidemment, il n'y a pas que dans l'immobilier ce genre de truc, mais ça peut être un carnet. Vous pouvez lancer des carnets, des planeurs. Enfin, l'idée des projets annexes, c'est souvent d'aller chercher des projets qui sont financiers, parce que sinon, c'est un projet passion, mais pour le coup, qui sont des thématiques qui n'ont absolument rien à voir avec votre thématique principale. Et donc, l'idée, ça va être comme ça, de vous dire, ok, c'est quoi le projet que je peux lancer qui me permettrait de réanimer un peu cette passion-là dans ma thématique ou ailleurs, parce que finalement, si je suis passionné actuellement par autre chose, ça me permet aussi de sortir un peu la tête de mon business et de, finalement, quand je retourne dans mon business, vu que j'y passe moins de temps en ce moment, je suis super excité du fait de retourner dedans. Et donc, à mon sens, en tout cas, c'est un peu les leçons principales, les choses qui vont vous permettre, finalement, de rester passionné, même après 7 ans sur Internet, et de réussir à créer un business qui est durable. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Encore une fois, et dernier appel, les précommandes du livre terminent ce soir à minuit, donc le 23 avril à minuit, et vous pouvez toujours profiter des 3 bonus plus tenter votre chance au tirage au sort pour gagner une journée de coaching avec moi en one-to-one. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt. C'était Tony. Ciao.